Avez-vous déjà eu une conversation où vous aviez le sentiment que ça tournait en rond, que peu importe ce que vous alliez dire, ça ne servirait à rien et que votre interlocuteur sonnait comme un disque rayé?
Travailler dur. Savez-vous quoi? Ils ont travaillé fort. Puis ils méritent des REER. Ils ont travaillé fort. Ils
D'accord.
ont un fonds de pension. Ils ont travaillé fort. Ça, donc,
Bien
un
entendu.
fonctionnaire qui a gagné sa vie honorablement et tout ça, et ils ont travaillé fort pour l'avoir.
Eh bien, c'est peut-être à cause d'un biais inconscient. Aujourd'hui, à Document 1, on analyse brièvement la dissonance cognitive. Qu'est-ce que c'est la dissonance cognitive? C'est un phénomène psychologique qui a été étudié par Léon Festinger en 1957. Le chercheur a élaboré ce concept dans A Theory of Cognitive Dissonance afin d'expliquer le fait que les gens ont besoin de maintenir une cohérence entre leurs pensées, leurs sentiments et leurs comportements. La dissonance cognitive peut résulter d'une contrainte extérieure ou bien de la vie psychique autonome de l'individu. Festinger part de l'idée que l'esprit humain ne peut pas tolérer la coexistence d'idées incompatibles dans la conscience. En pratique, ce phénomène implique par exemple qu'une croyance solidement ancrée repousse les idées divergentes. Un homme avec une conviction est un homme difficile à changer, écrit Festinger. Dites-lui que vous n'êtes pas d'accord et il se détourne. Montrez-lui des faits ou des chiffres et il remet en question vos sources. Faites appel à la logique et il ne voit pas où vous voulez en venir. Le concept de dissonance cognitive de Festinger signifie que deux éléments peuvent être incompatibles et que la tension entre ces deux éléments engendre un inconfort psychologique. Par exemple, si un individu souhaite améliorer son état de santé, mais qu'en même temps il ne souhaite pas faire l'effort nécessaire à une activité physique ou arrêter de fumer, alors il peut ressentir une culpabilité qui va miner son moral. La théorie de Festinger signifie que c'est la coexistence de deux désirs contradictoires qui engendre ce malaise. Dans notre exemple, celui qui vit ses idées contradictoires va trouver des raisons souvent illogiques pour justifier son comportement comme plein de gens fument et ne meurent pas, ou de toute façon, on va tous mourir un jour, alors que justement cette personne redoute probablement la mort. Il y a plusieurs indicateurs qui nous permettent de repérer la dissonance cognitive. Ils ne sont pas à toute épreuve, mais leur répétition permet de voir qu'il y a un truc qui cloche. Mon propre biais a fait que j'ai choisi une discussion opposant des idéologies gauche-droite. Mais on retrouve ce phénomène dans toutes sortes d'oppositions. Par exemple, au sein même d'un groupe progressiste, on retrouvera de la dissonance au sujet du confinement ou de la vaccination pour la COVID-19. Comme il est plus facile de voir les biais des autres que les siens, on va tenter de repérer quelques indicateurs dans une entrevue du candidat de Québec solidaire, Simon Tremblay-Pépin, à LCN. Il est ici interviewé par Paul Larocque. Indicateur numéro 1. Est abasourdi par de nouvelles informations. Tout
Doit
à fait.
tenir compte, donc, et lui aussi, il risque d'atteindre le million, là, parce que on regarde un fonds de pension.
Le 20 % le plus riche de la population, le plus fortuné de la population, ses RPA équivalent en moyenne à environ 600 000 $. C'est ce que nous dit Statistique Canada.
À 600 000 $.
Exact.
Donc, ça touche pas mal de monde.
Ben oui, et puis il y a plein de gens qui ont des RPA, en effet. Mais 600 000 $, c'est pas 1 million aux dernières nouvelles?
Sylvain Larocque ne sait pas quoi répondre aux nouvelles informations fournies par le candidat de QS, et cela arrive à au moins deux reprises. Et une fois, on voit le commentateur politique mettre la main à son oreille, et on comprend qu'en régie, on lui demande de changer de sujet. Numéro 2, attaquer personnellement l'interlocuteur.
Mais
Très riche,
ma question de
Monsieur
base,
Larocque.
ma question de fond, elle est simple. C'est que pour vendre votre programme, vous dites on va taxer les très riches. Tu sais,
Exact.
c'est populaire dans la base de Solidaire, sans aucun doute. C'est populaire.
C'est pas très populaire chez nos adversaires, ni chez les commentateurs politiques, cependant.
Or, ce que je vous dis,
Oui.
c'est que les gens qui ont un actif de 1 million, ce ne sont pas des très riches. Et vous usurpez, au fond,
À
c'est pas
partir de
vrai.
Quand, Monsieur Larocque, quelles données scientifiques vous pouvez me dire, vous, là, qui savez tout, de toute évidence? Dites-moi donc, qui
non,
sont
non,
les
non,
très riches?
je vous préviens, elle n'est pas sur.
Ici, le journaliste, comme le candidat, sont en défaut. On a quitté le domaine du débat rationnel et on fonce dans les attaques personnelles. Et même si on comprend la frustration du candidat de QS, il sort perdant de cette intervention avec un air condescendant qui permet à Larocque d'avoir l'air d'une victime et de sortir de sa position inconfortable. Numéro 3. résumer de manière inexacte le point de vue de l'autre.
Les inégalités de revenus au Québec, le 20 % le plus pauvre, à peu près, là, le 20 % le plus riche, fait 7 fois son revenu. Les inégalités de fortune, savez-vous où ça se situe? Le 20 % le plus riche fait 500 fois la fortune du 20 % le plus
riche. Mais là, vous parlez des,
nous, à Québec
des
solidaire,
super millionnaires, des
le
milliardaires.
20 % de la population.
Cette technique d'évitement commence souvent par un marqueur de type si je vous comprends bien, là, vous parlez, vous voulez dire, etc. Ici, Larocque ne peut pas juste faire coïncider sa perception de l'écart de richesse et l'écart réel. Pépin l'explique très bien, et on a déjà parlé dans ce podcast de ce sujet. Les gens fortunés ont tendance à sous-évaluer leur richesse et les pauvres à surévaluer leur fortune. Cette incompatibilité mène Larocque à vouloir reformuler le 20% des plus riches en les super-millionnaires et les milliardaires. Indicateur numéro 4, se retirer sans concession.
C'était pas disponible sur Internet. En effet, on leur a transféré les micro-données. On n'a pas eu les détails de leur calcul, mais pour nous, on parvient à 5 % et je suis prêt à partager ces données avec n'importe qui.
Tant mieux. Et c'est bien pour la population qui aura apporté un jugement éclairé le 3 octobre.
Ce n'est pas la première fois que Larocque se retire sans concession, on l'a mentionné plus tôt, mais cette fois, il utilise une formulation qui semble être une concession, mais en fait, qui le dédouane d'avoir une position sur un fait. Larocque et son équipe ont les données, mais ne les ont pas vérifiées. Peut-être par manque d'éthique ou un acte de Dieu qui a entravé leur travail, va savoir. Au final, on pourra toujours nuancer ce portrait de la dissonance cognitive d'un journaliste et dire que le journaliste n'est que le véhicule des biais de ses téléspectateurs. Et vous avez peut-être raison. Faire changer d'avis quelqu'un est extrêmement difficile. Selon les recherches, pour y parvenir, il faut faire appel à trois éléments. Les sources fiables, les croyances et les valeurs de la population. Sur le premier élément, Simon Tremblay-Pépin et Québec solidaire scorent une très bonne note. Statistique Canada et les autres recherches marquent des points. Mais ce n'est pas suffisant. Ils ont ignoré ce qui était plus important pour les gens, soit les valeurs et les croyances.
Travailler dur. Savez-vous quoi? Ils ont travaillé fort. Puis ils méritent des REER. Ils ont travaillé fort. D'accord. Ils ont un fonds de pension. Ils ont travaillé fort. Ça, donc, un fonctionnaire qui a gagné sa vie honorablement et tout ça. Et ils ont travaillé fort pour l'avoir.
QS aurait tout à gagner à inclure dans son discours les valeurs du dur labeur et du gain mérité. Et c'est un peu ce qu'on voit justement dans la campagne en France des syndicats sur la réforme des retraites.
En 37 ans de cotisation.
Je me vois pas travailler jusqu'à 64 ans.
Commencer les postes à 6h du matin et puis après faire 14-22. Et...
Pour rien, gratuitement, voilà. C'est pas ça qui va sauver le régime. Moi, je veux bien participer, mais pas de cette manière-là. Pas en offrant gratuitement un an, 9 mois de ma vie alors que je pourrais la consacrer à ma famille, à mes loisirs. Depuis 18 ans, je travaille.
Bref, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est avant tout de faire un auto-examen et de prendre le temps d'écouter l'autre. Céder à vos émotions et vous confiner dans une attitude de gagner à tout prix pousse uniquement l'autre à se sentir encore plus agressé et à davantage protéger sa position, aussi irrationnelle soit-elle. C'était Walid Romani pour Document 1. Merci d'avoir été à l'écoute. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Spotify et YouTube et à partager ce podcast. À la prochaine!